Chapitre 2. Oppresseurs ou serviteurs. Des épaules surchargées. Ils attachent de lourds fardeaux, difficiles à porter, et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Quand l'enseignement ne pratique pas ce qu'il enseigne, son enseignement devient rapidement trop exigeant, aveugle aux vrais défis, sourd aux cris du peuple. Quel visage cette oppression prend-elle ici? Quelle est la nature des fardeaux en question? L'esprit religieux épie, accuse, jalouse. Les maîtres de la loi, qui étaient du parti des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec tous ces gens. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Plus loin, ils questionnent, pourquoi tes disciples font-ils ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat? Et encore, pourquoi ne suivent-ils pas les règles transmises par nos ancêtres, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Marc 2, verset 16, verset 28, 7, verset 5. Pourquoi, pourquoi et pourquoi? Manger, faire, ne pas suivre, ne pas jeûner. Jésus, comme ses disciples, est constamment sous les feux de la critique. Les pharisiens se mirent à lui manifester une violente fureur et à lui poser des questions sur toutes sortes de sujets. Ils lui tendaient des pièges pour essayer de surprendre quelque chose de faux dans ses paroles. Luc 11, 53 à 54. L'esprit religieux épie et jalouse ceux qui n'en sont pas animés. Peu sont capables de résister à l'influence que cela entraîne. Paul écrira à ce sujet, « Des faux frères s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir. » Galates 2, verset 4. L'esprit religieux est à la fois servile et menaçant. Ni Jésus ni Paul n'ont cédé à cette pression psychologique, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ainsi, les propres parents de l'aveugle guéri refusent de reconnaître que c'est Jésus qui a fait le miracle. Ils parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue toute personne qui affirmerait que Jésus est le Messie. Jean 9, verset 22. Parmi les chefs juifs eux-mêmes, beaucoup crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas, pour ne pas être exclus de la synagogue. Ils préféraient l'approbation qui vient des hommes à celle qui vient de Dieu. Jean 12, versets 42 à 43. Les pharisiens ouverts au message de Christ, comme les simples citoyens et jusqu'aux chefs du peuple, tous prenaient de grands risques à se positionner. L'esprit religieux rend les gens serviles, car chacun finit par se méfier de l'autre. Le moule est si étroit, les marges de manœuvre si faibles que les transgressions, même pour les dirigeants, se multiplient. On finit par s'excommunier, se persécuter, et, si on se rappelle de l'histoire, par s'exécuter les uns les autres. Il n'est pas rare que les inventeurs de nouveaux supplices en aient été parmi les premiers bénéficiaires. Le pouvoir de dominer, d'intimider, de menacer, d'exclure, que ce soit de l'école, de la famille, de l'église ou du travail, est redoutable. L'Écriture nous met en garde. Quel que soit ton pouvoir, utilise-le avec sagesse pour servir et non asservir. Ne l'utilise jamais pour proférer des menaces injustes ou régner en pacha. Pour tous les hommes de bonne volonté, la présence de Jésus, comme celle des apôtres, est recherchée. La foule nombreuse écoutait Jésus avec plaisir. Marc 12, verset 37. La présence des pharisiens, elle, est redoutée. Ils paraissent compliqués, maniérés, guindés. L'esprit religieux rend les pharisiens méprisants. En voici quelques échantillons. À propos du peuple, « Mais cette foule ne connaît pas la loi de Moïse, ce sont des maudits. » Jean 7, verset 49. À propos de Jésus, « Nous savons que cet homme est un pécheur. » À propos d'un homme guéri, ils l'injurièrent et dirent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu veux nous faire la leçon ? Et ils le chassèrent de la synagogue. Jean 9, versets 24 et 34. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine, et je te donne le dixième de tous mes revenus. » Luc 18, verset 11. L'esprit religieux n'a pas d'autorité spirituelle. On amena alors à Jésus un homme qui était aveugle et muet, parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. Jésus guérit cet homme, de sorte qu'il se mit à parler et à voir. La foule était remplie d'étonnement, et tous disaient, « Serait-il le fils de David ?» Quand les pharisiens les entendirent, ils déclarèrent, « Cet homme ne chasse les esprits mauvais que parce que Béelzébul, leur chef, lui en donne le pouvoir. » Matthieu 12, versets 22 à 24. Il semble que, quand l'homme religieux est confronté au pouvoir miraculeux de Dieu, sa seule explication est de l'attribuer au diable. Pourquoi ? Parce que n'étant lui-même que rarement exaucé, incapable de faire fuir les mauvais esprits, fataliste devant la maladie, tout en se proclamant serviteur de Dieu, il s'y sent obligé pour sauver la face. Ici, reconnaître Dieu en Jésus serait discréditer tout le système établi. Quand la réputation, la profession, le salaire et les relations y sont liés, c'est une révolution que peu sont prêts à affronter. On préfère attribuer l'action aux malins. Cependant, quand eux-mêmes sont réellement confrontés à des forces mauvaises, ils n'ont aucune autorité spirituelle. Par exemple, lorsque les 7 fils d'un grand prêtre tentent de délivrer un homme possédé, l'esprit mauvais se jeta sur eux et se montra plus fort que tous. Il les maltraita avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de sa maison, nus et couverts de blessures. Conformément au livre des Actes, chapitre 19, versets 13 à 16. L'esprit religieux esquive les responsabilités. De nos jours, certains disciples de Christ, plutôt que de se remettre en question quand ils ne sont pas exaucés, accablent les personnes qui auraient dû bénéficier de leur ministère. La personne souffrante, ou sa famille, est plus ou moins ouvertement accusé de manquer de foi, de persévérance ou de consécration. Cette attitude, face aux parents d'un enfant handicapé, par exemple, peut engendrer des années de culpabilité et de souffrance. Ces pharisiens auront prié quelques instants, puis auront lié un fardeau, parfois à vie, sur une famille déjà éprouvée. L'homme spirituel. Par contraste, Jésus parle et agit en serviteur. Le Créateur passe ses premières années sur notre planète comme bébé, puis comme enfant. Roi de l'univers, il assume la pauvreté, la fuite en Égypte devant Hérode, la rudesse du climat. Il se soumet à des parents humains. Il ne revendique rien et ne se prévaut nullement de ses titres légitimes. Jeune adulte, il se met, comme charpentier, au service de ses compatriotes. Par la suite, il supporte avec patience les faiblesses de ses disciples, tout comme la mauvaise foi de ses adversaires. Propriétaire de tout, il n'a pas un endroit où reposer sa tête. Parfaitement saint, il accueille la prostituée et tous les lépreux. Il croit à la repentance et à la guérison. Il affronte la tentation, l'opposition, la déception, la trahison, l'angoisse et la tristesse. Adoré par les anges, il est crucifié par l'humanité. Ce n'est donc pas dans une position de facilité, tel un prince régnant, qu'il allège les fardeaux des hommes, mais au cœur des défis quotidiens, au sein de la mêlée. Sa compassion est celle d'un compagnon d'armes. Il prend nos soucis, porte nos péchés et subit jusqu'à notre jugement. Il devient ainsi notre frère, notre avocat, notre sauveur. Dieu a un caractère de serviteur. Le diable a un caractère d'oppresseur. Pour terminer ce chapitre, je vous propose quelques instantanés du caractère et des enseignements de Jésus et de Paul. Ils parlent plus fort que les commentaires que nous pourrions en faire. Jésus se leva de table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples. Jésus les appela tous et dit, « Vous savez que les chefs des peuples les commandent en maître et que les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. Prenez mon joug sur vous et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. » Puis il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Il le serra dans ses bras et leur dit, « Celui qui reçoit un enfant comme celui-ci, par amour pour moi, me reçoit moi-même. » Laissez-la tranquille, pourquoi lui faites-vous de la peine? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau. Oh, que ta foi est grande! Dieu t'accordera ce que tu désires. Et sa fille fut guérie à ce moment même. Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. L'homme dont les esprits mauvais étaient sortis était assis aux pieds de Jésus. Il portait des vêtements et était dans son bon sens. Le père de Publius était au lit. Il avait de la fièvre et de la dysenterie. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui et le guérit. Après cela, les autres malades de l'île vinrent aussi et ils furent guéris. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Jean 13, versets 4 à 5. Matthieu 20, versets 25 à 27. 11, versets 29. Marc 9, versets 36 à 37. 14, versets 6. Matthieu 15, versets 28. Jean 8, versets 11. Luc 8, versets 35. Actes 28, versets 8 à 9. Galates 5, versets 1. Romains 8, verset 21. 2 Corinthiens 3, verset 17.